L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Certains fanatiques des clubs s'illustrent par des actes de violence dans les stades, des suites peut-être à cause d'un refus des résultats ou lorsqu'ils contestent une décision de l'arbitre. Il arrive ces scènes de violence éclatent, la situation dégénère et il s'ensuit des dégâts matériels dans les installations. Et comment mettre fin à ces violences pour que la fête soit totale dans nos stades lors des rencontres sportives? On en parle dans quelques instants avec Al Kitenge, président de la Commission nationale de lutte contre les violences et la corruption dans les sports. Monsieur Al, la première question est de savoir et quelles sont les causes, qu'est-ce qui génère la violence dans nos stades?
Je dis, permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de vous dire que aujourd'hui, c'est une journée très particulière, c'est une journée d'échange avec les équipes. Toutes les équipes qui sont engagées dans la Coupe du Congo sont avec nous au niveau de la Fédération de football. Okay. Nous sommes en train de faire de la sensibilisation sur la responsabilité de manière intégrée, de sorte que nous soyons en mesure de donner des réponses idoines à cette grande question qui commence à faire honte au prestige national. Mmh. Et donc maintenant, vous posez une question fondamentale et elle est tout à fait globalisante. Comment faire? Un, nous avons fait des études approfondies du cas sociologique congolais. Qu'est-ce qui se passe dans nos stades? Des choses les plus simples.
Qu'est-ce qui cause la violence d'abord? Tout Qu'est-ce qui est à l'origine de la violence?
J'y viens tout de suite. Mmh. Des choses beaucoup plus simples aux choses beaucoup plus compliquées. Oui. Les choses les plus simples. Comment pouvez-vous accepter que dans nos stades, entre l'alcool et le chanvre? Des choses simples que l'on peut stopper tout de suite. Mmh. Il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de bouteilles de bière, il y a beaucoup de drogue dans nos stades. C'est des choses qui sont complètement inacceptables. Non seulement la drogue et l'alcool sont inacceptables dans nos stades, les gens qui viennent consommer la drogue et ils viennent consommer l'alcool dans les stades n'ont pas leur place dans un stade de football. Première chose.
Les armes blanches aussi, j'imagine.
J'y arrive. D'accord. Deuxième chose, oui. Les armes blanches. On ne peut pas venir dans un stade avec des équipements dangereux. Tout le monde le sait. On est censé être en mesure de filtrer les gens qui arrivent avec des équipements qui peuvent être accidentogènes. Troisième chose. Mmh. Lorsqu'on vient regarder un match de football, on est censé faire deux choses. La première, aimer le football. La deuxième, comprendre le football. La première des choses, c'est que si les gens n'aiment pas le football, ils n'ont pas leur place dans un stade. La deuxième, c'est que s'ils ne comprennent pas les règles, ils interpréteront de manière erronée les décisions qui sont rendues. Et donc là, il y a un travail fondamental à faire au niveau des clubs. C'est former les supporters. Vous savez, la réglementation, y compris au football, a beaucoup évolué les 10 dernières années. Et il y a des gens qui sont restés dans le passé, incapables de porter jugement sur les actes qui sont posés par les officiels. Mmh. Ils s'en prennent à eux de n'importe quelle manière. Après, il faut aller sur des choses beaucoup plus structurées. Nos infrastructures ne sont pas faites pour être en mesure de donner un minimum de sécurité par rapport aux aires de jeu. Il y a une aire de jeu qui est réservée à ceux qui sont censés y être, qui sont les joueurs et les officiels. Oui. Et il y a des aires qui sont réservées aux gens qui viennent regarder
le
match.
Mais il n'y a pas assez de sécurité. Ceux qui sont dans l'aire de jeu ne sont pas assez protégés.
Ne sont pas suffisamment protégés. Quatrième chose, la police. Notre police anti-émeute n'est pas formée pour prendre en charge les événements qui se passent dans les stades. Parce que, pense-t-il, c'est une question de police. Non, c'est une question des services de renseignement, c'est une question de la Fédération de football et des organisations dirigeantes du football. Et bien entendu, en dernière instance, c'est des questions de police. Et donc, il y a un travail intégré à faire avec les trois corps. Mmh. Il faut être à mesure, après cela, de mettre en place le rôle des technologies. Aujourd'hui, les technologies de détection des grandes images et de prévention de dangers sont très utilisées dans les stades. Ça veut dire qu'en fait, tous les espaces du stade sont pris en charge par des caméras de surveillance et qui sont connectés aux grands écrans. Ça sous-entend
les vestiaires, les toilettes,
tout est pris en charge. Oui. Tout est pris en charge, non seulement pour des raisons documentaires en cas d'incident qu'on soit en mesure de retracer, oui, mais surtout pour être en mesure d'avoir une action préventive. Tout ça mis ensemble montre clairement que, oui, le problème que nous avons aujourd'hui, les autres l'ont eu il y a 30 ans, moment, ils l'ont résolu et il est important que nous le prenions à bras le corps et qu'on le corrige. Le football est un sport, c'est le sport roi dans notre pays, c'est une fête. Ce n'est pas un endroit où nous allons commencer et continuer à distribuer la mort.
Mais certains disent que la violence s'accentue lorsque la police tire, par exemple, des balles en l'air et c'est ça qui affole tout le monde et puis et c'est parti la panique et la violence s'installe.
Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où un match va se passer, les services de renseignement sont censés faire des évaluations sociologiques de la dangerosité des matchs et être en mesure de prendre des dispositions. Dans tous les stades du monde, lorsque on vend des billets, il y a un certain nombre de billets qui sont réservés aux agents de sécurité qui sont en civil, qui détectent le comportement humain des gens et qui peuvent isoler de manière rapide les gens qui sont à risque. Première des choses.
Les fauteurs des troubles éventuels.
Absolu. Et on les prend en charge. Deuxième chose, et il est important qu'on sache que quand un match arrive et que on a un groupe de policiers qui doivent intervenir, ces policiers ne sont pas venus regarder le match, ils sont venus surveiller le comportement humain et être en mesure de décourager ceux qui peuvent commencer les dangers. Ça sous-entend qu'en fait, ces gens doivent être formés, préparés et comprendre la psychologie.
Mais bon nombre des policiers, on peut dire qu'ils se transforment en spectateurs aussi.
En vendeurs de billets, en fraudeurs et ce genre de choses doivent être évitées.
Oui.
Et simplement, ils doivent savoir qu'ils sont ils doivent être d'ailleurs payés et motivés pour ça. Ils sont venus pour faire de la surveillance citoyenne. Et ceci dit, il faudrait amener des gens qui sont capables de contenir les masses et ils doivent être suffisamment équipés. La raison pour laquelle les policiers perdent le contrôle, c'est qu'à un moment donné, ils se sentent eux-mêmes en danger face à la foule. Et bien entendu, ils utilisent des grands moyens.
Oui.
Et donc, il faut être en mesure d'avoir la bonne évaluation du risque, fonction de la qualité du type de match et du type des supporters. Deux, il faut être en mesure d'infiltrer absolument les supporters pour être en mesure d'isoler les fauteurs de troubles. Quand ça commence, il faut agir vite, c'est comme un feu.
Parce qu'il y a toujours des meneurs dans le
groupe. Absolument, c'est comme un feu. Quand il commence, vous l'arrêtez. Si vous l'arrêtez pas, vous ne l'arrêterez plus jamais. Et donc, en ce moment-là, une des choses que je voudrais dire de manière simple, c'est que à partir du moment où les gens sont équipés, ils sont sûrs de ce qu'ils font et il faut avoir un plan visible et un plan invisible. Le plan invisible, c'est le plan de renforcement. Au cas où les choses se passent bien, voilà ce que vous allez faire. Au cas où ça devient grave, il y a un renfort qui arrive et les gens doivent être en mesure de se prendre en charge.
Oui.
Les policiers, quand ils quittent chez eux, ils ont envie de rentrer vivants. Et vous le savez très bien, lorsqu'une foule se déchaîne, ça peut les mettre en danger et donc c'est pour ça qu'ils utilisent des grands moyens.
Oui.
Mais s'ils utilisent trop vite les grands moyens, ça veut dire simplement que c'est eux qui provoquent encore une fois la deuxième génération du danger qui se présente au niveau des peuples. Et vous vous êtes rendu compte, la plupart des fois qu'il y a eu des morts dans les stades, ils ne sont pas morts parce qu'on a tiré dessus, ce sont les gens qui ont marché les uns sur les autres dans la panique.
Voilà, la panique. Alors, s'il faut prévenir aujourd'hui les violences au niveau des stades, ça doit commencer à quel niveau? Déjà, dès l'entrée, c'est là où on doit mettre beaucoup de mesures de sécurité.
Qu'est-ce
qu'il faut faire?
Vous regardez la partie visible du risque et du danger. Il faut regarder la base. La base, c'est l'équité. Vous savez, les sports ont ceci de particulier, on les appelle disciplines sportives. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle, et il y a des gens qui sont censés faire respecter les règles, et ils ont un statut spécial, et tout le monde doit connaître les règles et les respecter.
Oui.
Première chose, il faudrait que les joueurs soient suffisamment informés sur les règles, les entraîneurs aussi, mais bien entendu les supporters. Il faut faire de la sensibilisation, qu'on sache à quelles règles on vient jouer. À quoi ça sert de gagner à tout prix, y compris en corrompant et en transgressant les règles, parce que vous savez que juste après, il y a des compétitions de meilleur niveau où vous allez simplement perdre parce qu'on va vous loger à une autre enseigne. Deuxième chose, la moralité. C'est pour ça que nous lions les violences avec la corruption. Il y a chez nous, de manière généralisée, cette tendance à penser qu'on doit inféoder les arbitres en leur donnant de l'argent. Deux choses, on les laisse dans une situation sociale très faible, ils deviennent fragiles.
Oui.
Deuxième chose, ils ne sont pas payés correctement, ils ne sont pas pris en charge correctement. L'argent de...
Et souvent, ils sont corrompus
pour ce genre de choses. Ouais. Et quand ils sont corrompus, tout le monde le sait, on les laisse. Regardez ce qui s'est passé avec cet arbitre africain qui a fait une bêtise au niveau du championnat du monde. Il est rayé, il est complètement banni, il n'arbitrera plus jamais à ce niveau. C'est ce genre de choses qu'il faut avoir ici. Être en mesure de tenir les gens à un système d'assurance qualité. Ça veut dire qu'en fait, quand un arbitre officie un match, il doit être évalué. Et nous devons être en mesure de faire du rating. Ça veut dire qu'en fait, on les évalue, on sait que le meilleur arbitre, c'est tel, le deuxième, c'est tel. Et pour telle autre raison, ça peut permettre aussi que nous puissions être en mesure de les propulser dans les compétitions internationales. Tout à fait.
Entre eux,
plus ils sont mieux cotés, plus il faut les payer. Et plus ils peuvent aller dans des compétitions internationales. Et je le disais encore ici la fois passée, quand vous êtes un officiel, un arbitre, dans les grandes compétitions, vous voyagez business class, vous logez dans un étoile 5 étoiles et vous êtes bien payé. Et donc, il faudrait que nos arbitres se rendent compte que leur défi, ce n'est pas le défi local. Leur défi, bien entendu, c'est d'aller au mondial, être en mesure d'être des arbitres congolais qui arbitrent là-bas. Et c'est une honte que nous n'en ayons pas à ce niveau-là.
Voilà. La moralité, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour prévenir la violence dans nos stades?
À part ça, c'est la qualité du jeu. ça sous-entend qu'en fait, mieux est le football, meilleur est la qualité, et ça, c'est une question intrinsèque qui vient du fait que nous devons avoir un système de formation des joueurs, nous devrions avoir des académies, ça produira des joueurs de bien meilleure qualité, et nous allons nous disputer sur l'essentiel et non sur l'accessoire. Aujourd'hui, on pense qu'on peut se réveiller un matin, on met une équipe, on l'envoie en division 1. Ça ne se fait pas. C'est des choses qui viennent...
Parce qu'il y a même des joueurs qui sont violents, qui se donnent des coups
mais bien entendu,
sur l'heure des jeux.
C'est des gens qui n'ont pas été préparés, qui ne comprennent pas qu'il y a un avenir dans le football. Et quand vous choisissez le football comme votre profession, il faut savoir que vous devez être en mesure d'en vivre. Et donc, votre longévité dans la discipline compte. Deuxième chose, l'image de marque. Il faudrait que les joueurs comprennent que plus le jeu est positif, plus l'image est positive, plus on peut attirer des sponsors et des annonceurs, plus le football peut générer de l'argent et plus on peut les payer. C'est toute une industrie financière. Et donc, le comportement humain, le prestige de la discipline passe par là. Il faut donc qu'un code de conduite sévère soit édicté par la Fédération Congolaise de Football Association et qu'il soit, de manière cascadée, renvoyé jusqu'aux instances les plus basses. À partir de ce moment-là, quand vous avez mis en place un code, vous devez le respecter. Il y a un besoin d'exemplarité qui doit venir des dirigeants de la fédération. Et ça, c'est extrêmement important.
Comment lutter contre les violences dans les stades? Nous recevons aujourd'hui Al Kitenge, président de la Commission nationale de lutte contre les violences et la corruption dans les sports. Deux auditeurs en ligne, Doudou Kadima de Mujima et Georges Mukinda, nous appellent des Manonou. Vous voulez également participer? Composez le 081-890-6394.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Comment lutter contre les violences dans les stades? Doudou Kadima, vous êtes à Mbujimayi, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour Fondi, bonjour aussi à Al Kitenge.
Bonjour.
Moi, je pense que les responsabilités sont partagées, comme l'invité vient de l'évoquer. Mais la grande responsabilité revient quand même aux organisateurs. Parce que je pense d'abord que... D'abord, le gouvernement doit doter des infrastructures sportives fiables à la fédération pour bien organiser ce match du championnat national. Parce qu'il n'y a que dans le football où on enregistre les cas des morts, parce que la saison dernière en Ligue de foot, vous vous rendez compte que nous avons enregistré une quinzaine de morts au stade Tata Raphaël lors du match tout puissant Mazembe contre l'ASVPR.
Oui.
Aussi, la police, il faut que notre police soit bien informée, parce que ici en Mbujimayi, j'avais participé dans un match de football qui avait opposé l'ASV Club contre un Sangaba 1-2. Je me suis rendu compte que la police était nombreuse au stade, mais c'est comme si la police n'avait pas d'autres moyens d'utiliser pour calmer la tension qui prévalait au stade. Alors, les supporters aussi ont aussi leur part de responsabilité. Parce que nous regardons les matchs, je dis Daniel Kachama, les championnats anglais, les championnats de l'Europe. Vous vous rendrez compte, la zone neutre et le terrain est séparé par une distance peut-être d'un ou de deux mètres. Mais quand il y a même un but, vous ne verrez jamais un supporter qui quitte les gradins pour accéder dans le terrain. Mais ici, chez nous, ça se fait toujours. Vous verrez, si on valide un but, c'est les supporters qui accèdent dans la zone neutre, qui accèdent même sur le terrain pour gâcher la fête.
D'accord.
Moi, je pense que les supporters doivent être bien formés. Alors, j'aimerais poser ma question à Al Kitenge. Pourquoi nos fanatiques ici, nos supporters, quand leur club joue le match de la Ligue des Champions ou de la Coupe des Confédérations, vous ne verrez jamais le supporters envahir la zone neutre ou le terrain pour gâcher la fête. Mais il n'y a que le match du championnat national qui est toujours gâché toutes les années. Ne voyez-vous pas que c'est peut-être ils font parfois c'est par force. C'est ce que moi je vois, parce que le match de la Ligue des Champions de la Coupe des Confédérations, vous ne verrez jamais.
D'accord, merci Doudou. Merci Doudou. Georges Mukinda, vous êtes à Manono. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Jody. Alors, j'aimerais demander à l'invité pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tellement de contrôle avant l'accès dans les installations sportives. Vous trouvez Monsieur Jody, Daniel, les spectateurs qui se permettent d'entrer dans les stades avec du chanvre plutôt, de la boisson, et cela les pousse à occasionner des troubles pendant la période de l'ivresse. Vous voyez, après, et ils commencent à jeter des petites bouteilles dans les stades. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer cette situation-là?
Merci.
Deuxième question.
Oui.
Pourquoi est-ce que M. Ali Kitenge, pour le moment depuis, et les policiers ont les systèmes de gaz lacrymogène? C'est comme s'ils les lancent même en désordre, parce que cette pratique a déjà causé des troubles plus ou moins trois fois au stade à Saint-Raphaël. Mais vous voyez les policiers qui lancent des gaz lacrymogènes, même là, il ne faut pas les lancer. Alors, monsieur Ali Kitenge, quand est-ce qu'un policier doit lancer les gaz lacrymogènes dans les stades? Et pour terminer, monsieur Jody, le fait de ne pas sanctionner les fauteurs des troubles au stade. Vous voyez, monsieur Jody, après un match, les supporters lancent les cailloux dans les stades. Au lieu que le comité de sanctions pour la Ligue nationale sanctionne les promoteurs, mais on se contente de demander une somme à l'équipe. Par exemple, si vous demandez 500 000 à l'équipe comme l'AS des clubs ou les tout-puissants Mazembe, alors qu'est-ce que cela va faire? Cela ne fait rien aux supporters parce que c'est l'équipe qui va donner cet argent. Pour terminer cette situation, est-ce que ce n'est pas possible de sanctionner les poteurs des
d'accord.
Équipes et même pour
oui.
De sanctionner les équipes?
Les voilà équipes. Ce que c'est, je dis, Daniel Kacha. Bien. Symphorien Bidoya, vous êtes en Boujimaï, dans la province du Kassai oriental. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Rapidement.
Je suis au Kassai oriental et je suis pas en Boujimaï, je suis à Kananga.
Vous êtes plutôt à Kananga. Bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Symphorien?
Oui, moi j'ai conscience que les violences se passent souvent quand il y a des clubs qui ne s'entendent pas. Quand il y a un match entre un club et un autre qui ne s'entendent pas, il y a des violences à la fin.
Oui.
Moi je propose à ce que les dirigeants de tous les clubs qui ne s'entendent pas puissent organiser des championnats, donc des matchs amicaux comme les tout puissants Mazembe récemment de l'organiser, parce que vous voyez que les rancunes qui étaient entre le groupe Mazembe avaient pris fin à cause du match qu'ils leur avaient opposé. À Mazembe. Le pouvoir perdu sur le score des 4-1, il n'y avait pas de problème. Je pense que si tous les dirigeants pensaient à faire ça, pensaient donc à mettre fin aux rankings qui les opposent, ça va un peu terminer le. Donc ce sera une solution qui pourra aussi faire en sorte que les violences se terminent dans nos salles. Et puis j'ai une question.
Bon. Rapidement, rapidement.
Les violences continuent et dans nos salles, ça ne sera pas. Donc. Quelque chose qui peut faire à ce que les classements, même au niveau des. Donc, de la FIFA puisse. Donc, la RDC puisse baisser des rangs. Et c'est ce que je veux savoir. Est-ce que ça tient aussi compte de la situation sportive du pays? Je vais demander ça,
merci. Merci Bernard. Vous êtes à Manono, dans la province du Katanga. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Et bonjour, monsieur, je dis Daniel Kassama. Moi, j'ai des questions à poser à notre invité.
Lesquelles?
Est-ce que ce n'est pas, oui, est-ce qu'il n'y a pas façon, avant d'entrer au stade, de vérifier tous les supporters, même dans sa poche, dans sa mallette, de peur qu'il n'y ait pas de cailloux ou quoi? Est-ce que ça, ce n'est pas possible? Et c'est ce que je propose aussi. Moi, je sais que dans notre pays, il n'y a pas l'amour sportif. Parce que ce que j'ai constaté en Europe, c'est différent d'ici chez nous. Si possible, l'État préconise un peu les moyens de fermer même les clubs qui font de tels désordres. Au lieu de taxer de l'argent de 500 000 dollars de quoi, mais fermer les clubs de ne pas jouer même toute une compétition comme ça, si cela peut favoriser un peu la paix dans notre stade. C'est cela mes deux questions, merci.
D'accord, merci. Al Kitenge, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Chaque fois que j'entends les Congolais parler des sports et particulièrement du football, je me réjouis. Je me dis, les Congolais aiment le football. Les Congolais aiment la paix. Et ils sont tous positifs et c'est une très très bonne chose. Mmh. Et cela se répercute dans leur manière de vivre. Ils sont demandeurs de quelque chose de positif. Et moi, le malheur que j'ai, c'est de constater qu'une minorité des gens gâche la fête à tout le monde. C'est totalement inacceptable. Je vais revenir sur les points qui ont été soulevés ici.
Oui.
Doudou Dombujimaï, il parle des organisateurs, mais bien sûr, il faut repenser les différentes compétitions que nous avons. Plus nous montons en qualité de compétition, bien entendu, mieux les gens doivent se conduire. Et parce que finalement, si vous n'avez rien à perdre, vous prenez n'importe quel risque. C'est comme quelqu'un qui monte sur un camion qui est surchargé de marchandises. Il pense que sa vie ne vaut rien. C'est la même chose avec un supporter. S'il pense qu'il ne perd rien, il peut prendre n'importe quel risque. Mais s'il c'est qu'on peut le punir pour ne même pas voir un seul match pendant toute une année parce qu'il s'est mal conduit, il va avoir quelque chose qu'il risque de perdre. Donc, il va se conduire en fonction de cela.
Donc, il faut pas punir les équipes ou les formations, il faut plutôt punir les individus.
Il faut
c'est ce que les auditeurs ont proposé.
Il faut commencer par punir les individus puisque des fois, les équipes n'ont pas de responsabilité directe sur ce qui se passe parce qu'il y a un marginal qui, lui, a commencé un mouvement qui a été suivi. Première des choses. Mais deuxième chose, et c'est là que se trouve la responsabilité des équipes, c'est que lorsque vous dites que vous êtes supporter d'une équipe, il y a un lien entre les supporters et l'équipe. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans tout le monde entier, le lien, il est surtout financier. Les gens achètent les gadgets de leur équipe pour donner des moyens à leur équipe de pouvoir aller de l'avant. Parce qu'il faut savoir que pour tenir un club de football,
il faut des moyens.
Ils ne doivent pas tous venir de la poche d'un individu.
C'est ça.
Et c'est pour ça qu'il y a un statut juridique qui doit accompagner une équipe. Et c'est pour ça que le rôle de la masse est très important. Et à partir du moment où les gens contribuent, ils ont le devoir de surveiller la gestion de ce qu'ils donnent. Mais ils ont également le devoir de se conduire correctement pour que les gens qu'ils ont désignés puissent être en mesure de donner le travail qu'ils attendent.
Il y a même des supporters qui lancent des injures à l'endroit des animateurs de leurs équipes.
C'est ce qu'on appelle un manque de respect. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le code de conduite. Il doit tenir tout le monde du leadership jusque à la masse. Mais je voudrais revenir sur quelque chose d'important que les gens ont soulevé ici, c'est les infrastructures. Regardez, on est en train de construire des infrastructures. Regardez le stade de Lubumbashi, regardez ce qu'on est en train de construire en Bujima et au Bas-Congo. Mais on construit au 21e siècle des stades comme si nous étions dans les années 70. Mais c'est inacceptable. Nous allons reproduire exactement les mêmes bêtises. Et il faut être sérieux.
Qu'est-ce qu'il fallait prévoir dans ces stades qu'on est en train de construire?
Un stade, c'est une infrastructure codifiée. Il y a ce qu'il y a et ce qu'il ne doit pas y avoir dans un stade. Les accès doivent être bien menés et aujourd'hui, un stade répond à un certain nombre de normes. Ce n'est pas parce qu'on est au Congo qu'on est en Afrique qu'on a le devoir de faire des choses simplement à l'envers. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire une chose, les stades aujourd'hui coûtent moins cher lorsqu'elles sont faites en structure métallique, bien posées, avec tous les accès, que quand vous les faites avec du béton que vous ne savez même pas détruire à la fin.
Alors, si je comprends bien, il faut les construire de manière à ce que les supporters ne quittent pas les gradins pour se retrouver dans l'air du jeu.
Les accès contrôlés, les accès autorisés, les accès non autorisés, et tout ça, ça doit faire partie de ce que c'est un stade. Un stade est un ouvrage normatif. Il y a des normes auxquelles aujourd'hui un stade doit répondre. Vous ne vous levez pas un matin, vous faites un design d'un stade parce que vous êtes une autorité de tel ou de tel autre niveau. Il faut savoir demander. Aujourd'hui, vous ne devenez pas constructeur d'un stade de football parce que vous voulez le faire. Il y a des gens qui l'ont fait les 10 dernières années. Prenez-les et faites un stade. Au moins, ça peut servir d'exemple. Et ça peut prévenir les problèmes. Je voudrais revenir ici à quelqu'un qui a parlé du championnat national. Bien entendu, c'est l'enjeu qui détermine le niveau d'émotion. Lorsque c'est une compétition de faible amplitude, les gens sont plus ou moins relax. Lorsqu'on va à des enjeux beaucoup plus élevés, bien entendu, ils deviennent un peu plus excités. Encore une fois, l'idée de gagner à tout prix n'est pas une idée sportive. La sportivité, c'est de gagner par les règles. À partir de ce moment-là, vous devez savoir que une victoire est un processus. Il faut se préparer. Et pour se préparer, il faut des moyens, ce qu'on appelle les moyens
sur les ressources. L'échec n'est pas une fatalité.
Non. Il y a trois résultats possibles. Oui. L'égalité, la perte ou la victoire. Et il faut se préparer à ça. Et lorsque vous avez perdu, il faut en tirer des leçons pour être en mesure d'aller de l'avant. Georges disait tout à l'heure, il faut contrôler les accès. Mais bien sûr, ça revient à ce que je disais. Oui. Quand les infrastructures sont faites pour, même les accès sont contrôlés. Et il y a des endroits où il y a des détecteurs de métaux. Quand vous passez avec quelque chose, monsieur, venez ici, on vous check et on sait de quoi il s'agit. Oui. Mais si vous n'êtes pas équipé de ça, si vous n'avez pas les caméras pour savoir qui est entré, qui est sorti, ce sera très compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous avez 80 000 personnes qui entrent dans le stade des martyrs, comment vous allez les contrôler individuellement, physiquement? Ce n'est pas possible, il faut être équipé. On parle des gaz lacrymogènes.
Et on n'a pas ces équipements là, aujourd'hui dans nos différents stades.
On n'a rien. Les petits stades tanzaniens sont super équipés, les stades kényans sont super équipés, les stades marocains et tunisiens, on ne peut même pas en parler. On doit apprendre à faire des choses normales. Aujourd'hui, on a quand même des routes qui répondent à des normes, on a des bus plus ou moins normaux, même si les chauffeurs ne sont pas à la hauteur. En fait, il faut qu'on redevienne un pays tout simplement normal. On n'a même pas besoin d'être performant et ça ira déjà mieux. On ne peut pas accepter d'aller de mal en pis chaque jour simplement parce que nous sommes négligents. On parlait tout à l'heure des gaz lacrymogènes et je l'ai dit dans mon introduction. attention, la panique n'est pas l'apanage de la police. La police ne doit pas paniquer. Mais la seule raison pour laquelle les gens paniquent, c'est qu'ils ne sont pas préparés à ce qui risque d'arriver. Ils n'ont pas un plan B. Et quand ils paniquent, bien entendu, ils sortent le grand jeu. Et le grand jeu, c'est ce qui les met en protection individuelle. Et ce sont les gaz lacrymogènes. Et il faut décourager les choses. Et c'est pour ça que moi, je le dis, c'est la troisième ou la quatrième fois que je le dis sur vos antennes, il faut que les services de renseignement, la fédération de football et la police travaillent
de commun accord
pour être en mesure de mettre en place une stratégie et une tactique de prévention des risques. Il faut aller dans la prévention plus que dans la réparation, parce que dans la réparation, généralement, les dégâts collatéraux sont très élevés.
La réaction de la foule est imprévisible. On ne sait pas gérer comment les gens vont se comporter.
Non. Il y a que les irresponsables qui disent ça. Le comportement des gens est tout à fait prévisible. Lorsque vous étudiez la sociologie d'un match, vous connaissez qui sont en présence, vous connaissez les risques qu'il y a, et vous prenez des dispositions. Et je vous donnais quelques dispositions tout à l'heure, c'est de dire, par exemple, on fait de la sensibilisation à l'avance, et c'est une partie du travail que nous faisons, et on donne un code de conduite aux uns et aux autres, on responsabilise de manière individuelle les leaders des différentes équipes, on passe des messages avant, pendant et après le match, et dernière des choses, on infiltre de manière sérieuse les spectateurs et on a la capacité d'isoler les fauteurs de troubles quand ils commencent. Et ça permet que nous soyons en mesure de diminuer au grand maximum ce qui peut arriver. Mais quand ça arrive, la police doit savoir que ceux qui sont dans les stades ne sont pas les seuls qui sont dans le dispositif de sécurité. En cas de problème, il y aura un backup qui va arriver, il sera plus équipé, il va les prendre en charge. En ce moment-là...
Il n'y a jamais eu de backup.
Si vous regardez ce qui se passe, c'est vraiment la catastrophe. Aussi vite que ça commence, c'est les grenades lacrymogènes, mais simplement parce que les gars...
Ils n'ont pas une équipe de renfort
et ces gens sont tout seuls. Ils savent que si on les déborde, ils peuvent mourir. Oui. Alors ils préfèrent distribuer la mort avant.
On va prendre les trois derniers auditeurs. Jean des Dieux nous appelle des Kikwit, Blanchard et Luana de Kinshasa et Martin Milolo de Kananga. Jean des Dieux, vous êtes à Kikwit, soyez bref. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour monsieur Zobi, bonjour à notre invité, à tous ceux qui sont présents ma branche.
Quelle est votre question Jean des Dieux?
Merci beaucoup. J'ai une contribution que je vais donner par rapport à l'émission. Ma contribution sera basée sur ce qui concerne le ministère des Sports et Loisirs et le ministère de l'Intérieur. Nous allons se mettre autour d'une table pour discuter ensemble et avant qu'il y ait une image, ils doivent être ensemble et disposer les fonds qui peuvent aider surtout les policiers qui sont là au stade pour sécuriser le match. Parce qu'on voit que la plupart des violences qui sont en train de prendre de l'ampleur dans nos stades et d'institutions qui puissent où on a envoyé les policiers pour aller sécuriser le match. Les policiers ne font pas leur travail pour sécuriser le match. Ils se donnent toujours à commencer maintenant avant de chercher de l'argent auprès des supporters pour dire non avant d'entrer pour que tu donnes ceci. Ils donnent cela et ils ont oublié leur objectif principal de sécuriser le match. C'est pourquoi vous voyez que notre population qui n'est pas sécurisée, au cas où il y a des erreurs entre une autre cas, alors il y a des agressions, il y a des pierres qu'on a lancées et le match finit comme ça, il y a toujours des blessés, alors on ne tient pas compte maintenant pour aller sécuriser la
d'accord,
situation.
Merci Jean des Dieux. Blanchard Luana de Kinshasa, quelle est votre question?
Oui, ma question est de savoir, est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité de pouvoir commencer à sanctionner ou à rétablir la responsabilité de façon individuelle face aux supporters fautifs liés de se limiter qu'à infliger des sanctions d'amende ou des forfaits aux équipes? Merci.
D'accord, merci. Martin Milolo de Kananga, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, je veux saluer Monsieur Alkitenge, que j'aime bien, je le salue de l'ONG. Moi, j'ai pas de questions à poser, mais je voudrais amener juste une petite contribution par rapport aux violences qui se produisent régulièrement dans nos stades, dans notre pays. Moi, je pense qu'il faudra que nous puissions nous tous lutter contre la complaisance dans les chefs de l'organisateur. Pourquoi? Parce que notre organisateur, l'organisateur du football congolais, lorsqu'il prend une décision, lui-même là, il prend une décision et il est incapable de pouvoir l'appliquer. Parce que généralement, quand on prend une décision contre une équipe, on inflige des amendes que l'équipe doit payer, ça ne pèse pas tellement. Mais si on pouvait prendre des sanctions, on dit par exemple, le prochain match qui va opposer l'équipe A contre l'équipe B, ces deux équipes sont privées de leurs supporters et leurs fanatiques n'ont pas droit d'accéder au stade, par exemple, à 2-3 fois. Je pense que ça va être une mesure qui va interpeller la conscience de tout un chacun. Lorsqu'on prend une décision, on dit l'équipe A va jouer contre l'équipe B à huis clos. Et demain, là, à la télévision, nous qui sommes à l'intérieur du pays, là, demain, là, nous allons voir ces deux équipes-là dans les tribunes d'honneur centrale ou latérale. On trouve qu'il y a encore des gens qui sont en train de crier, qui acclament lorsque les buts sont marqués. Moi, je pense que ça s'appelle complaisance, ce n'est pas. Lorsqu'on prend une décision comme ça, à huis clos veut dire personne n'y accède en dehors, par exemple, du staff de l'organisateur qui va affecter. En plus de ça, en dehors de cette petite contribution que je viens de faire, il y a aussi, quoi, là, l'arbitrage, l'injustice des arbitres, c'est ce qui fait que vous voyez dernièrement, par exemple, ce que nous avons vu à Mbujimayi, ce club contre Saint-Marin, l'arbitre qui va au-delà même du temps réglementaire, au-delà même du temps additionnel. Donc moi je pense, nous devons dénoncer et condamner et aider la...
Oui. Merci Martin, merci. On a compris, on va prendre un dernier intervenant, Michel Tchiboui de Lubumbashi. Michel, bonjour, soyez bref, quelle est votre question?
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de passer sur vos ondes. Je pense que, moi, ma contribution, elle est celle-ci par rapport aux troubles qui sévit dans les stades. D'abord, ce sont les opinions que les dirigeants sportifs lancent à l'endroit de leurs supporters.
Soyez bref, Michel, on a pris
le temps. Par exemple, les cas de TP Mazembe, les cas de Zekleb qui a été, je ne sais pas, avec les désordres qu'il y avait eu au Kassai, mais quelles sont les opinions que les dirigeants de Zekleb ont lancées aux endroits des supporters? Et en ça, les supporters gardent aussi quelques remords envers l'équipe adverse. Et lorsque le Zekleb va se retrouver prochainement, je pense qu'il y aura toujours les désordres qui vont s'effectuer encore dans les stades. Alors, pour ce faire, les dirigeants aussi de la Linafoot doivent chercher des arbitres aussi compétents qui doivent très bien diriger les matchs, qui doivent être autoritaires sur le terrain.
D'accord, merci. Oui, merci Michel pour toutes ces contributions. Al Kitenge, vous avez la parole.
Je vais rapidement aller dans les préoccupations de vos auditeurs. Les accès au stade. Lorsqu'on parle de Kikwit, il n'y a pas de stade à Kikwit. Ce qu'on a est un terrain complètement précaire et qui ne répond à aucune norme. Et donc, ce qu'on est en train d'avoir là-bas est la conséquence pure et simple de l'impréparation et de l'absence totale d'infrastructures. Et il est important que les autorités du pays se rendent compte que nous devons équiper nos différentes provinces d'équipements et infrastructures modernes qui répondent aux normes. Parce qu'aujourd'hui, le football est devenu une industrie. Les jeunes gens qui vont à l'étranger ramènent de l'argent au pays. Et donc, il faut les former. Mmh. Il faut créer l'industrie du football. Et je pense simplement qu'il faudrait aussi dire qu'il y a deux catégories d'infrastructures. Il y a les infrastructures publiques et les infrastructures privées. Il faut avoir un modèle économique viable au football. Et ça, c'est la responsabilité de Constant Omari. Il doit être en mesure d'être inventif et il y a suffisamment de modèles sur lesquels on peut calquer des exemples pour être en mesure de faire quelque chose au Congo.
Oui.
Blanchard parler de la responsabilité individuelle et je l'ai dit de manière assez claire.
Il faut sévir les individus.
Il faut infiltrer les masses pour être en mesure d'isoler les gens. Il faut être en mesure de manière légale poursuivre ceux qui posent des actes complètement inacceptables dans les stades. Et bien entendu, la responsabilité individuelle va toujours ensemble avec la responsabilité collective. Et si une équipe bouillonne plus que l'autre, donc il y a une responsabilité de l'équipe et il faut être en mesure de les frapper.
Et Martin dit qu'il y a un match à huis clos, on voit encore des gens dans les gradins. D'abord,
il parle de la complaisance de manière générale.
Oui.
Ça, c'est l'histoire des gens qui doivent dire ce qu'ils font et faire ce qu'ils disent. C'est ça le rôle d'un leader. Lorsque vous êtes un responsable d'une organisation, vous avez le devoir d'équité. L'équité, c'est votre capacité à mettre les gens à la même enseigne. Et quand vous avez dit quelque chose, vous le faites. Quand vous avez fait quelque chose, vous le dites. Regardez ce qui se passe dans le football mondial aujourd'hui. C'est une honte générale. Mais en fait, c'est un système qui a été touché. Et j'espère beaucoup que nous allons avoir un redressement tout à fait vertical et horizontal. Et je pense simplement que tout le monde se rend compte que la corruption, ça peut fonctionner pendant un temps, mais ça ne peut pas fonctionner tout le temps. Et nous sommes aujourd'hui arrivés à une fin de cycle et j'espère beaucoup que nous allons faire du nettoyage dans les organisations internationales, mais également ici chez nous. Les matchs à huis clos.
Oui.
Un match à huis clos, ça veut dire un manque à gagner d'argent. Quand on prévoit un match à huis clos, il faut savoir qu'on sanctionne des gens psychologiquement, mais il faut aussi les sanctionner financièrement. Quand vous organisez un match à huis clos, de par la responsabilité d'une équipe ou d'une autre, il faudrait que l'équivalent de ce qui aurait pu être encaissé soit payé par cette équipe. Ça leur permettra d'être un peu plus responsable à l'avenir. Oui. Après, il y a les arbitres. Je disais tout à l'heure, il faut les coter et les évaluer et rendre cela public. Le meilleur arbitre du Congo, c'est tel, il a tel point. Il peut aller à telle formation pour être en mesure de pouvoir aller arbitrer en Afrique ou au monde. Oui. À partir de ce moment-là, on a leur profil, on les connaît. Même leurs propres enfants vont commencer à les interroger. Papa, pourquoi tu es dernier dans la classification des arbitres ? Dans le monde entier, ça se fait
ça
de cette manière.
Ça va les pousser à exceller. Hein.
C'est vraiment l'idée de l'excellence.
Oui.
Après, nous allons prendre la question de Michel qui parle des dirigeants sportifs. Les dirigeants sportifs, ce sont des leaders d'opinion. Ils doivent être responsables chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche et surtout quand ils ouvrent leur bouche en public. Parce que
ils doivent tenir des propos responsables.
Ils doivent tenir des propos exemplaires. Ils ont un devoir d'exemplarité et c'est très important. Mmh. Et je crois simplement que lorsque vous, en plus, vous êtes dans une discipline aussi émotive et émotionnelle que le football, il faut être responsable. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut savoir ce qu'on dit. Ce n'est pas parce que vous êtes fâché que vous allez vous exprimer négativement tout en sachant que l'impact peut être négatif. Il est honteux que nous ayons dans une discipline comme le football des gens qui tiennent encore des propos tribaux ou ethniciste, c'est honteux, on ne peut pas arriver à ce niveau-là. Lorsque vous êtes un dirigeant sportif, les sports ont ceci de particulier, il n'y a pas de distinction de race, il n'y a pas de distinction de tribu, il n'y a pas de distinction d'ethnie, et c'est un fédérateur. Le sport est fédérateur et il est important que les gens qui prétendent vouloir diriger les disciplines
alors,
sportives...
Alors, pour terminer, alors s'il faut prévenir les violences dans nos stades, vous avez donné des tas de choses qu'il faut faire. Alors, parmi tout ce que vous avez donné comme recommandation, par où faut-il commencer?
Il faut commencer par de la sensibilisation. Il faut sensibiliser les gens sur le besoin du fait que il ne faut plus jamais que nous ayons des morts et des blessés dans nos stades. Ce n'est pas pour ça que nous allons là-bas. Il faudrait que nous fassions ce que les Anglais appellent
cette sensibilisation.
C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons toutes les équipes qui sont engagées dans cette nouvelle compétition au siège de la fédération. Nous sommes en train de leur parler. Il faut que cela soit cascadé au niveau des provinces et au niveau des différentes disciplines. Deuxième chose, il faut rétablir la place de l'équité. Ce n'est pas pour rien que notre commission se charge de la corruption et de violences dans les salles, parce que les deux sont liés. Mmh. Et si vous brisez l'équité parce que vous manipulez l'argent ou l'influence, bien entendu, vous blessez les gens dans leur amour propre, vous les frustrez, et ils vont vouloir se défendre avec ce dont ils disposent. Et ils disposent de la violence et des moyens illégaux, et c'est totalement inacceptable. Si nous avons un effet sur ces deux, il reste le grand travail, c'est sur la mise à niveau de nos différentes infrastructures et des différents intervenants que se trouvent être la police et les différents dirigeants.
Pour des caméras de surveillance
absolue,
dans le stade, tout ça.
Absolue.
Bien, Alki Tengue, président de la Commission nationale de lutte contre les violences et la corruption dans le sport. Merci et à bientôt.
C'est à moi de vous remercier. Je suis fier des gens qui nous écoutaient et qui sont intervenus.